Ah, je me suis emporté déjà à 18h08. C'est sûr, il faut que j'aille parler à François. Benjamin me fait des signes. Parce que je sais comment ça marche avec François. Hein? On commence tranquillement, puis là, vers 22-23, il faut que j'aille à la pause. Puis là, il n'est plus capable de mettre un terme à la discussion. C'est à la fin que ça devient encore plus mordant puis plus le fun. Salut François.
Salut Dan.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Juste pour poursuivre sur ta pensée.
Oui.
Habituellement, les. Je ne sais pas si c'est fait de façon inconsciente, mais habituellement, à chaque camp d'entraînement, il y a toujours un joueur ciblé par les médias qui, je te dirais, 90% du temps est québécois, qu'on va mettre un peu sur un piédestal en disant est-ce que le Canadien peut, par exemple, le renvoyer dans les mineurs. On a vu ça avec Guillaume Latendresse, on a vu ça avec plusieurs joueurs. Louis Leblanc, très bon exemple aussi, sans jamais oublier que quand Louis Leblanc a été repêché, 99% des gens qui scandaient son nom à l'époque à Montréal pour qu'on le repêche, je l'avais jamais vu jouer. Mais dans le cas de Charles Hudon, c'est un peu la même chose. Puis je suis exactement du même côté que toi dans le sens où je lui souhaite de faire l'équipe, je lui souhaite d'avoir du temps de glace, de pouvoir se prouver. Mais on dirait que là, on l'a pas vu jouer encore ou à peu près pas. T'sais, il a dominé, disons, dans un match intra-équipe, puis on s'est emporté un peu. Donc j'espère qu'on va lui donner une chance de se faire valoir, qu'on aura une opinion, qu'on pourra se faire une opinion sur lui. Mais c'est sûr que c'est le gars qu'on a placé dans le haut des discussions cette année en disant il faut qu'il fasse l'équipe avec le manque de punch que le Canadien a en attaque.
Oui, exactement. On va le savoir peut-être un peu plus à compter de demain. Là, t'sais, Jonathan Drouin, ça va être ses débuts demain, mais Jonathan Drouin est pas en bataille pour faire l'équipe ou non. Là, t'sais, l'intrigue de Charles Hudon, pour moi, est plus présente que celle sur Jonathan Drouin ou hier sur Carl Alsner.
Oui, mais ce qui est intéressant, Dan, aussi, c'est quand le camp commence, je pense même qu'avant que les gars sautent sur la patinoire, ou disons la première fois qu'on forme des trios, ça donne quand même une idée de qu'est-ce que tu vois de certains joueurs. Puis je pense que le plus bel exemple, c'est Alex Hemsky. T'sais, Hemsky, on se dit, si ce gars-là est en santé, il peut peut-être aider le Canadien. Mais quand tu le vois là, dès la première semaine patiner avec Drouin puis Pacioretty, tu dis, bon, on a quand même des aspirations assez grandes pour lui. Puis c'est rare que pour un jeune joueur, quand tu vas arriver, souvent tu vas avoir deux coéquipiers de trio, que ça se peut que tu leur demandes leur nom à un moment donné parce que tu n'es pas trop sûr de qui c'est. Puis ça te donne une indication habituellement que tu vas avoir ton billet plus rapidement que les autres pour venir. Mais ça, je pense que c'est une question de feeling aussi de la part du coach parce que depuis que toutes les signatures, que le repêchage a été fait, tout ça, tu sais un peu à quoi ressemble ton équipe. Puis Claude Julien a probablement dormi là-dessus pendant des semaines et des semaines. Puis il a dit, bon, ben c'est comme ça qu'on va commencer. Puis on verra ensuite ce que ça va donner. Mais je pense qu'il y a certainement une ou deux places de disponibles en attaque pour le Canadien. La question de savoir, c'est est-ce que tu as de la place sur un des deux ou trois premiers trios ou c'est vraiment des gars de quatrième à te demander est-ce que je préfère Hudon ou McCarron. J'ai hâte de voir comment ça va tourner.
C'est pas moi qui choisis, non?
Non, mais écoute, il t'a pas le choix de dire, Dan, que tu as une discussion avec ces deux gars-là, avec
McCarron et De La Rose hier, là, d'après moi, il n'aura pas pu jouer dans ta ligue à Pont-Rouge le jeudi soir.
Ben, tu sais, De La Rose, là, c'est le genre de gars, puis je dis souvent ça, moi aussi, à la blague, tu sais, il jouerait dans notre ligue du mardi, mercredi soir, puis il serait le meilleur, mais je pense qu'il défoncerait pas la ligue parce qu'écoute, il a tellement peur d'aller en attaque, c'est presque ridicule. Puis là, à un moment donné, hier, il y avait deux tirs au but, puis là, on commençait à s'emporter, on se disait, coudonc, c'est-tu un nouveau joueur, soudainement, qui est offensif?
Franchement, c'est un choix de première ronde, De La Rose, je me trompe pas.
Deuxième ronde, si ma mémoire est bonne.
McCarron est première ronde, par contre.
Oui, fin de première ronde. Puis, écoute, c'est pas les endroits où c'est facile de repêcher, là, parce que tu te retrouves avec une manne de joueurs qui sont pas. Disons que je dirais entre 20 puis 50, là, les joueurs se ressemblent pas mal. Puis c'est pas toujours facile. Mais De La Rose, c'est un gars qui avait des aptitudes, qui a un bon coup de patin, qui a un bon flair défensif. Mais offensivement, là, c'est un gros 0-0-0.
C'est un Kyle Chipchera suédois.
Ouais, mais il est plus, je pense qu'il est plus athlétique que Chipchura. Tu sais, Chipchura, moi, il y a une chose qui avait marqué les gens, c'est qu'il avait été le capitaine d'équipe Canada Junior à une certaine époque. Puis c'était pas pour son talent, c'était un gars qui était un bon leader.
Oui.
Mais ça t'aurait pris un peu la personnalité de Chipchura avec la charpente, puis je veux dire, le coup de patin de De La Rose, ça aurait pu te donner quelque chose. Mais il faudrait mélanger un troisième joueur avec ça qui a un peu plus de flair offensif. Faire un qui a du bon sens, là.
Mais tu sais, Jolson est jeune. Faut que je fasse attention avec Noah Jolson parce que c'est un jeune. Il a seulement 20 ans. Et faut pas que je parte en peur. Mais je ne pense pas que ça va devenir un des quatre meilleurs défenseurs du Canadien un jour. Et si jamais il le devient, le Canadien va manquer les séries 6-7 ans en ligne. Mais en même temps, faut que je fasse attention parce qu'il a seulement 20 ans, mais je vois pas en lui un gars qui va devenir vraiment un top 4 du Canadien. Jolson, fin de première ronde. McCarron, fin de première ronde. Delarose, début de deuxième. Sherbach, première ronde aussi, François?
Oui, Sherbach, fin de première ronde aussi.
Là, finalement, des fins de première ronde ailleurs, là, il est sorti des à Philadelphie, ils ont pris des gars comme Simon Gagné, Claude Giroux. À Anaheim, ils ont pris Getzlaff et Perry. Là, tu vas me dire, Dan, t'es malhonnête. Tu fais juste donner les exemples de gars qui ont eu de brillantes carrières. Puis toi, tu dis que Trevor Timmons, c'est un pas bon. Sauf que, à un moment donné, il y a des équipes qui repêchent mieux que d'autres. Aujourd'hui, François, je lisais une manchette que Jay Bouwmeester va manquer quelques semaines d'activité chez les Blues. Les Blues de Saint-Louis ont tellement bien repêché dans les dernières années, là, que dans nos pots, la vie, là, on s'arrache les joueurs des Blues parce qu'on est convaincu que les jeunes qui ont été repêchés par cette organisation-là sont bons, ont été bien développés. Puis il y a un paquet de jeunes, là, Wildman, puis Jordan Schmaltz, qui est le frère de Nick Schmaltz qui joue avec les Blackhawks. Ben, ça, c'est des gars qui vont arriver. Puis un autre bel exemple, François, pour les Blues, Colton Parayko, qui jouait à l'université de l'Alaska. Puis finalement, il est arrivé avec les Blues. C'est devenu un joueur important des Blues de Saint-Louis. Cette équipe-là, je ne suis pas en train de dire qu'elle s'ennuiera pas de Jay Bouwmeester, mais comme elle repêche très bien, ce qui n'est pas le cas de Trevor Timmons, ben, elle va s'en sortir. Puis il y a des jeunes qui vont sortir puis du lot puis qui vont réussir à faire leur bout de chemin.
Ouais, c'est sûr qu'à un moment donné, comme je te dis, exclue un peu les choix dans les 15 premiers choix de la première ronde. Habituellement, tu n'as pas le droit de te tromper. Il faut que le joueur joue dans la Ligue nationale à un certain impact. Après ça, les chances de se tromper sont quand même beaucoup plus grandes, mais il faut à un moment donné que tu frappes dans le mille. Tu sais, je pense que Timmons a quand même eu deux ou trois coups par-ci par-là. Je pense tout de suite à Subban qui était un choix de deuxième ronde, puis quelques gars comme ça. Pacioretty a fait une première ronde qui avait été un choix très intéressant, qui avait été une bonne année au repêchage pour le Canadien. Mais il faut à un moment donné que t'aies des petites surprises en deuxième et en troisième ronde. Il faut que même t'aies des joueurs de cinquième, sixième ronde qui puissent venir te donner un coup de main. Il faut de temps en temps que tu sois capable d'aller chercher ou de recruter, je devrais dire, un joueur américain qui sort du collège, qui a pas de contrat. Puis il faut que t'aies des surprises qui viennent d'un petit peu nulle part. Puis ça, faut admettre que chez le Canadien, depuis belle lurette, il n'y en a pas eu beaucoup de joueurs qui se sont développés plus que prévu, de joueurs qui arrivent de nulle part puis qui forcent l'organisation à leur faire une place. C'est pas arrivé souvent. Puis, tu sais, j'aimerais ça à un moment donné que tu dis, tu sais, il y a un joueur qui arrive de nulle part, qu'on n'a pas vu arriver. Et un gars de 20 ans qui t'a signé de la LHJMQ qui n'avait pas été repêché, qui devient un joueur important.
Mettons Martin Saint-Louis pour répondre à ta question.
C'est un très bel exemple. Puis, écoute, c'est pas nécessairement un gars qui va se retrouver au temple de la renommée, mais un gars qui va pouvoir t'aider. Mais présentement, regarde ce que le Canadien a dans sa filiale. Non seulement il n'y a pas grand-chose, pas grand talent à développer, mais si jamais le Canadien voulait tenter de s'améliorer quelque part en janvier, février, le Canadien n'a pas grand-chose à donner non plus qu'une certaine valeur et à peu près rien dans l'organisation. Puis tu as parlé de Jolson. Tu n'as pas le choix de dire que présentement, ça reste un de tes beaux espoirs parce que Sergachev est parti, mais si c'est ton meilleur espoir que tu as dans l'organisation, ça veut dire qu'il va falloir que tu gagnes bientôt parce que sinon, il y a une reconstruction qui va s'annoncer quelque part dans les prochaines années. Là.
François, j'ai croisé beaucoup de monde de l'organisation du Canadien hier au Centre Vidéotron, mais j'ai pas croisé Marc Bergevin. D'après moi, s'il avait été là, ce matin à 10h, il échangeait Galchenyuk.
Mais moi, je m'en porte pas avec un match préparatoire, Dan. Puis je sais que, écoute, j'ai regardé seulement là, quelques petits passages du match hier via la télévision, puis ça avait pas l'air d'un gars qui était passionné par ce qui se passait. Ça avait pas l'air d'un gars qui avait le goût de jouer un match qui veut absolument rien dire, puis il avait peut-être la tête ailleurs. Mais je m'en porte pas pour un match. Je reste confiant que Claude Julien est un très bon entraîneur, puis c'est exactement le genre de gars qui peut lancer ou relancer la carrière de Galchenyuk. Mais si on pense qu'il va se présenter 82 soirs par année, puis qu'il va toujours être celui qui va mener la gang, je pense que là, on est dans le trouble. Mais quand c'est un gars qui a quand même du talent, puis ça, les gens le savent, puis tu sais, l'année passée, c'est quoi, 5 ou 6 buts en prolongation durant la saison régulière, c'est fascinant, mais c'est toujours par séquence. Puis moi, je pense que j'ai espoir, dans le cas de Galchenyuk, un peu à l'image de Carey Price. T'as 3, 4, 5 ans, souvent en début de carrière, quand t'es pas marié, tu profites du nightlife, que tu profites de ton argent, puis tu profites de la vie en général, puis à un moment donné, la cassure se fait, puis tu décides d'être un petit peu plus sérieux, puis vraiment de mettre ta, ta, ta carrière sur les tracks. Puis je pense que c'est un peu ça que je vois dans le cas de Galchenyuk à un certain moment donné. La question est de savoir, Dan, ça va être à Montréal qu'on va réussir à le mettre sur la track ou ça va être ailleurs. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que je suis pas sûr que si on échangeait Galchenyuk demain matin, qu'on aurait qu'on aurait exactement ce qu'on veut en retour, puis je suis pas sûr qu'on serait gagnant nécessairement parce que ça reste un gars qui est très jeune et excessivement talentueux quand ça lui tente de jouer.
Mais ailleurs, penses-tu qu'ils ont une bonne opinion de Galchenyuk?
Je suis pas convaincu, mais moi, tu sais, je suis un directeur général dans un marché secondaire aux États-Unis où le gars peut avoir une petite vie tranquille, tu sais, qui peut peut-être de temps en temps dépasser les bornes sans faire la première page du journal. Je pense que oui, c'est un gars qui pourrait avoir du succès ailleurs, peut-être plus qu'à Montréal, mieux entouré, mieux encadré dans un marché où on parle pas trop de hockey. Mais tu sais, comme je te dis, si demain matin, c'est toi qui fais des téléphones pour essayer de l'échanger, je pense que les autres DG savent à quoi s'attendre aussi, puis savent que je parlerai pas d'un gars à problème. Je pense pas qu'il est rendu là, mais je pense que c'est un gars qui peut déranger, surtout par le manque d'effort, le manque de sérieux et surtout avec tout le talent qu'il a. Ça, je pense que ça peut certainement déranger d'autres directeurs généraux.
François, est-ce que tu penses que Lionel Messi est meilleur que Sidney Crosby?
C'est une maudite bonne question, ça. C'est dur de comparer deux sports, hein?
Je le sais, mais tu sais pourquoi je te pose cette question-là? C'est qu'aujourd'hui, Messi a marqué 4 buts.
Ouais.
C'est la 5e fois dans sa carrière qu'il marque 4 buts. Est-ce que... J'ai pas vérifié, là. OK, j'ai vu la manchette passer, j'entrais en onde. Pour l'avant-match. Est-ce que tu penses que Sidney Crosby, dans sa carrière, a fait au moins 5 matchs de 4 buts?
Oh, ça, c'est une bonne carrière. Tu parles de carrière de la Ligue nationale de hockey?
Pas avec Rimouski, c'est ça, juste Ligue nationale. Moi, je dirais non.
Ben, moi non plus. Si tu me dis juste Ligue nationale, je pense pas.
Tu penses pas, hein?
Non.
Mais s'il le fait, lui.
Puis, ben écoute, mais...
Tu sais quoi? Je sais qu'on peut pas comparer, puis je m'amuse évidemment avec ma question, mais je veux juste... que les gens se rendent compte que tout ce qu'on entend de négatif sur le soccer, là, puis je suis pas en train de dire que je vais faire 3 émissions spéciales dans les 3 prochains jours sur le soccer, sauf que souvent, on dit « Ah, c'est plate, c'est plate, c'est plate. » Il n'y a jamais de but. Il n'y a jamais de but. C'est tout ce qu'on entend sur le soccer. Mais le meilleur joueur, Messi, il a scoré 5 fois 4 buts dans sa carrière. Puis Crosby, qui est le meilleur joueur au monde jusqu'à temps que McDavid embraye au mois de novembre. Mais il n'a pas fait ça, lui. Pourtant, il n'y a jamais de but au soccer. Personne ne dit qu'il n'y a jamais de but au hockey, là.
Hey, 4 buts au soccer, c'est presque marqué 7 buts au hockey, par exemple. Là. C'est oui. Du stock, là.
Il l'a fait 5 fois.
Mais je connais pas beaucoup le soccer, puis tu sais, quand tu connais les grandes lignes, tu connais un peu les grands noms, mais j'ai vu une petite vidéo la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, de Messi qui arrive à l'hôtel avec ses nombreux gardes du corps, puis il y a un petit gars qui avait réussi à se faufiler, qui s'est rendu jusqu'à lui, mais là, évidemment, les gardes du corps l'ont retourné de bord.
Ah,
Messi a mis les freins, a dit à tout le monde, attendez un peu, ramenez-moi le petit gars ici, 2-3 photos, prends un signe des autographes. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de place.
Très bon que tu ramènes ça ce soir dans l'avant-match. J'ai vu la vidéo, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai trouvé que la sécurité autour de Messi avait traité le jeune comme si c'était un motard.
Mais t'as pas le choix à un moment donné. Je pense que pour ces gens-là, t'as une job à faire, puis que la personne qui se faufile à 12 ans, on a 63, t'as une job à faire parce que tu sais jamais trop à quoi t'attendre non plus de la réaction des gens. Puis je pense que t'as vraiment pas le choix parce qu'il y a tellement de monde, tellement de gens qui se promènent. Puis avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en dehors du sport, je pense qu'on est encore plus frileux, même si ce sont des enfants qui s'approchent des vedettes à ce moment-là.
OK, à Crosby, Benjamin a fouillé. Il n'a jamais fait 4 buts en saison régulière dans la Ligue nationale.
Jamais. Écoute, j'aurais dit peut-être 1 ou 2 fois, là, mais des matchs de 4 buts dans la Ligue nationale, Dan, c'est assez rare aussi. Ça, c'est comme un match où, tu sais, un match qui finit 7-5. Là. Penses-tu qu'il y en a eu un l'année passée? Il y en a peut-être eu 2 ou 3 dans la saison. Là. Mais des matchs où il y a plus que 10 ou 12 buts, là, c'est rendu une denrée rare également.
C'est vrai. Je te laisse en te disant que j'ai l'impression que... Parce que la saison commence dans 2 semaines, puis on va s'amuser avec des prédictions à gauche puis à droite. Là. C'est comme, tu vas rire, mais c'est comme si à rebours, je m'étais rendu compte que Niklas Hjalmarsson, c'était tout un défenseur de hockey. Puis vu qu'il est rendu en Arizona, parce que je fouille sur les différents sites puis dans mes revues de ce temps-ci pour préparer mes poules à long terme, puis c'est comme si je me suis rendu compte que les Blackhawks vont s'ennuyer d'Hjalmarsson, puis je pense, François, que les Blackhawks vont avoir de la misère à participer aux séries.
Ben écoute, je serais pas surpris pantoute dans l'Ouest que ça arrive. J'ai hâte de voir quel sera l'impact de la transaction Panarin-Sad. Tu sais, Sad n'arrive pas dans un milieu inconnu. Il a déjà joué là, puis il a déjà connu un certain succès. Mais je pense que les Blackhawks ont peut-être manqué un petit peu d'attaque aussi, parce que évidemment Mariano Sa sera pas là cette année.
Non.
Avec le départ de Panarin, tu dis ça va probablement être Kane, Tave, Sad puis Anisimov qui sont tes quatre gros canons. T'as deux, trois vétérans, là, comme des gars comme Panic, comme Sharp et compagnie, qui viennent un peu appuyer le noyau. Puis t'as ta bande de jeunes qui, l'année passée, avait quand même bien fait en fin de saison, puis peut-être pas en série, ça s'est pas très bien passé, mais t'as parlé tantôt de Schmaltz.
Ouais.
Je pense qu'il y avait Aiden, Hartman et qu'on exactement.
Ouais.
Toute ce gang-là. Mais défensivement, ça m'intrigue, parce que moi aussi, Hjalmarsson, honnêtement, c'est un gars que j'aime beaucoup. C'est un gars qui est très sous-estimé, je pense, des amateurs de hockey. Puis là, je me dis, qu'est-ce que Connor Murphy va t'amener comme défenseur? Est-ce qu'il est capable de jouer sur une base régulière et d'être très performant dans le top 4? Je pense que oui, mais j'ai hâte de le voir sur une base régulière. Puis l'autre défenseur, je pense que c'était Gustav Forsling, que j'ai vu un peu l'année passée, qui est un gars qui peut certainement se débrouiller. Mais tu te trouves avec une espèce de top 4, top 5 qui est un peu, en anglais, on dirait shaky. Là.
Puis j'ajouterais à ça que Brian Campbell, je n'étais pas un grand fan, mais il était quand même mobile puis il a annoncé sa retraite.
Ouais, puis là, tu vas te ramasser avec une couple de vétérans. Je pense que Rosival est encore là. Puis, sauf erreur, je pense que Cody Franzen avait une invitation pour le camp aussi. Donc, tu sais, tu vas aller te chercher de la profondeur, mais Dan, ils sont excessivement fragiles. Je pense qu'ils sont à une blessure près d'être dans le trouble. Et je trouve aussi,
surtout un gars comme Seabrook,
je trouve que Seabrook a ralenti aussi beaucoup du côté des Blackhawks. Donc,
Crawford, c'est pas le meilleur goaler de la ligue, là?
Ben, écoute, moi, j'ai jamais été un fan de Crawford parce que, tu sais, j'ai toujours trouvé le style est un peu...
John Garrett un peu, hein?
Ouais, moi, j'ai toujours le style boîte à lunch, là, tu sais, qu'il arrête les rondelles, puis il a gagné les Coupes Stanley, puis il faut y donner. Mais là, avec une défensive un petit peu moins solide, ça peut faire partie aussi de, je dirais pas des problèmes, mais peut-être des inquiétudes à un certain moment donné. Puis, tu sais, moi, je pense que les Blackhawks vont peut-être finir quelque part entre 6 et 10 ou entre 5 et 10. Tu sais, de dire ils finiront pas dernier de la conférence, mais c'est certainement pas le même club. Puis t'es à la veille, je pense, d'arriver peut-être à une cassure là aussi pour dire que tes joueurs vieillissent, mais surtout ce qui entoure ton noyau est beaucoup moins talentueux parce que tu donnes beaucoup d'argent à Kane, à Taze, à Seabrooks puis à Keith, puis même à Crawford aussi. Donc non, je tomberais pas en bas de ma chaise si les Blackhawks ne feraient pas les séries, mais je pense quand même qu'ils vont les faire, mais peut-être pas avec l'avantage de la patinoire.
OK, meilleur deuxième s'ils y font, je suis bien d'accord, parce que dans leur division, il faut quand même pas oublier que c'est Nashville, Dallas, Saint-Louis, Minnesota et Winnipeg.
Et Dallas, c'est peut-être le club le plus amélioré.
Oui.
Je sais pas si ça va fonctionner, mais Radu, Method puis Bishop, c'est quand même, tu sais, un gars à chaque position qui sont des gars de qualité qui vont changer un peu le visage de cette équipe-là. Donc, je pense que ça va être le club à surveiller, mais tous les autres clubs que tu as nommés ou à peu près sont des clubs de très grande qualité dans cette division-là.
Un gros merci, François.
Salut, Dan. Bonne soirée.
Bonne soirée à toi.